On commence cette émission avec les titres du journal. Et tout d'abord, l'industrie nucléaire française, la France n'aurait pas approvisionné assez d'argent pour gérer ses déchets radioactifs et démanteler ses installations, notamment les 58 réacteurs nucléaires exploités par EDF. Amnesty International publie aujourd'hui son rapport annuel. L'ONG y interpelle l'Union européenne et la France sur leur gestion de la crise des réfugiés. Et enfin, sortir de l'impasse, une tribune au vitriol dans Le Monde aujourd'hui. Des intellectuels et des responsables socialistes derrière la plume, au premier rang Martine Aubry et Daniel Cohn-Bendit. Trop, c'est trop, estime-t-il. À suivre pour le restant de cette émission, juste après ce journal, ce sera l'édito politique. On reviendra ce soir sur la crise des réfugiés et notamment le cas Viktor Orban. À suivre également les feuillets de l'Europe avec Vincent Tell. Bonsoir à vous, Vincent.
Bonsoir Antoine, bonsoir chers auditeurs.
Et au sujet de vos feuillets.
Alors, mais les feuillets, ah mon Dieu, c'est énorme. C'est à propos de Monsieur Emmanuel Todd, qui vient d'être interrogé en vain. Enfin, qui vient. Je vais parler d'un entretien qu'il a eu au journal allemand Die Zeit le 7 janvier 2016.
Très bien, merci Vincent. Ça, c'est après l'édito politique. Et on vous retrouvera également en fin d'émission pour vos éphémérides. Mais pour l'heure, c'est le journal. C'est une polémique, presque aussi ancienne que l'industrie nucléaire. La France n'a pas provisionné assez d'argent pour gérer ses déchets radioactifs et démanteler ses installations, notamment les 58 réacteurs exploités par EDF. L'accusation figure une nouvelle fois dans un document de la Commission européenne qui devrait être publié dans quelques jours. Selon cette enquête révélée par l'agence Reuters et reprise par les Échos hier, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas seraient bien plus prévoyants que la France. Des 16 pays de l'Union européenne exploitant des centrales, seule la Grande-Bretagne aurait mis suffisamment de côté, 63 milliards d'euros, pour les démanteler et gérer les déchets. Les Pays-Bas auraient couvert leurs besoins à 94%, l'Allemagne, qui fermera son dernier réacteur en 2022, à 83%. Et la France, elle dispose du plus grand parc de centrales et a le plus gros stock de déchets, mais elle serait loin derrière avec 23 milliards d'euros provisionnés, alors qu'il lui en faudrait 74 milliards, soit une couverture de 31%, contre une moyenne de 56% dans l'Union européenne. Mais ces chiffres ont-ils la moindre signification ? En tout cas, il reste vigoureusement contesté par EDF. Amnesty International publie son rapport annuel aujourd'hui, le lendemain du démantèlement avorté de la jungle de Calais. L'ONG y interpelle l'Union européenne et la France sur leur gestion de la crise des réfugiés. On demande à la France et à la Grande-Bretagne de respecter les droits des réfugiés, explique Jean-François Dubeau, responsable du programme Personnes déracinées pour Amnesty International France. L'Union européenne s'est montrée incapable d'apporter à cette crise une réponse cohérente, humaine et respectueuse des droits humains, dénonce l'organisation dans son rapport. En 2015, plus d'un million de réfugiés ont accosté sur les côtes grecques ou italiennes pour fuir les persécutions. Plus de la moitié vient de Syrie, les autres d'Érythrée, d'Afghanistan ou encore d'Irak. Face à cet afflux de réfugiés, les services d'accueil grecs ont rapidement été débordés. Cela fait plusieurs années que le gouvernement grec aurait dû mettre ses installations au niveau, mais il ne peut pas assumer seul une crise d'une telle ampleur, précise M. Dubeau. En effet, légalement, les demandeurs d'asile doivent être pris en charge par le pays où ils sont situés, mais la Grèce n'a pas la capacité pour assurer un accueil décent ni traiter les demandes d'asile de centaines de milliers de réfugiés. Amnesty International plaide, à l'instar du président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, pour un partage de l'accueil entre les États membres. Pour l'instant, seule l'Allemagne a une action positive, même si la chancelière Angela Merkel commence à changer de position. Il faut qu'il y ait plus de solidarité, indique l'ONG. Au contraire, Amnesty International critique les choix opérés par plusieurs pays, en particulier ceux d'Europe centrale. En Hongrie, le gouvernement de Viktor Orban a, dès le mois de septembre 2015, pris la décision de construire une clôture barbelée afin de sceller sa frontière serbe. Dans son sillage, c'est presque tous les pays de la route des Balkans qui ont pris des mesures similaires, faisant fi du droit européen et international sur l'asile. Il faut que l'Union européenne soit plus ferme avec ses membres qui ne respectent pas le droit international, précise M. Dubeau. Sortir de l'impasse, c'est le titre de la tribune au vitriol publiée dans Le Monde, datée du 25 février, par plusieurs intellectuels ou responsables socialistes et écologistes, au premier rang desquels Martine Aubry et Daniel Cohn-Bendit. Dans ce long texte, l'ancienne candidate à la primaire de 2011 et l'ancien député européen, avec leurs proches, prennent à partie François Hollande et Manuel Valls et livrent un très sévère réquisitoire contre la politique menée par l'exécutif depuis 2 ans. Trop, c'est trop, estime-t-il. À 14 mois de l'élection présidentielle, cet appel, devenu une pétition populaire, réclame un changement radical de ligne sous peine d'une défaite programmée en 2017, à la fois morale et politique selon eux. Ce n'est plus simplement l'échec du quinquennat qui se profile, mais un affaiblissement durable de la France qui se prépare, et bien évidemment de la gauche, s'il n'est pas mis un coup d'arrêt à la chute dans laquelle nous sommes entraînés. Écrivent donc les auteurs de cet appel, tels l'écologiste Yannick Jadot ou le sociologue Michel Wieworka, qui ont récemment appelé à l'organisation d'une primaire à gauche en vue de l'élection présidentielle de 2017. Vous écoutez EIBS Radio, il est 18h06. Pour la suite de cette émission, donc, dans quelques instants, l'édito politique, Viktor Orban oppose un référendum face aux migrants, suivi des feuillets de l'Europe, première partie avec Vincent Tell, comme il nous le disait tout à l'heure, nous reviendrons sur les propos d'Emmanuel Todd dans le quotidien allemand Die Zeit, et quant à moi, en deuxième partie, on ira, une fois n'est pas coutume, en Italie, qui veut changer l'Europe pour la sauver. Et pourquoi l'Europe doit se battre contre un pipeline entre la Russie et l'Allemagne. Ça, c'est après l'édito politique qui arrive maintenant. Le Premier ministre populiste de Hongrie, Viktor Orban, a décidé d'organiser un référendum sur l'acceptation ou non du plan de réallocation des migrants dans l'ensemble des pays européens. La Hongrie, comme beaucoup d'États membres d'Europe centrale, s'était opposée à ce dispositif qui avait tout de même été adopté. Dans un tour de force contre l'intergouvernemental, ce plan était l'objet du président de la Commission, Jean-Claude Juncker. La décision de Viktor Orban devrait en toute logique poser la question de l'appartenance de la Hongrie à l'UE. Car si cette appartenance est largement bénéfique à la Hongrie en termes d'investissement effectué par l'Europe et l'ouverture au marché commun, elle impose aussi des contreparties qui sont définies par les traités. Pour paraphraser Jean-Claude Juncker, il ne saurait y avoir de la démocratie au-dessus des traités. C'est vrai, on ne peut vouloir une Europe à la carte alors que les termes d'engagement respectifs ont été acceptés par les parties prenantes. Un référendum n'a pas lieu d'être tout simplement parce qu'il n'y a pas de modification des termes contractuels. Pour preuve, si les Hongrois refusent les quotas de réfugiés, le pays sera financièrement pénalisé à hauteur de 0,002% du PIB, preuve que les termes de réallocation des réfugiés répondent à des engagements contenus dans les traités. Il faudra hélas bien plus qu'une pénalité financière à l'encontre des États membres, et notamment les États membres autoritaires et répressifs tels la Hongrie ou la Pologne. En effet, ces États bafouent ouvertement les valeurs de l'Union européenne. Leur appartenance devrait donc être remise en cause. D'autant qu'on ne peut laisser les pays limitrophes des flux migratoires, la Grèce, l'Italie, sans le soutien et la solidarité de leurs partenaires européens. L'Union doit donc adopter une réponse d'envergure face à cette crise, une réponse pragmatique, tirant le constat que l'on n'empêchera pas l'arrivée de réfugiés, qu'on le veuille ou non. Il faudra donc bien les accueillir. Malheureusement, ni l'actuel plan de réallocation, ni la volonté des États membres ne laissent à penser que cela sera possible. h 9:15, l'heure dans quelques instants. Si Vincent Tell nous entend, vous êtes là, Vincent.
Oui, je vous entends, Antoine.
Eh bien, c'est une excellente nouvelle. Et donc, dans un instant, la première partie avec vous, des feuillets de l'Europe. Et je vous laisse la parole, cher Vincent.
Merci, Antoine. Bonsoir, chers auditeurs. Eh bien... pour les feuillets de l'Europe, c'est le cas de le dire puisque je vais parler en fait de plusieurs feuillets. Je vais essayer de les comparer. Et donc, tout d'abord, je tenais à faire remarquer que le choix a été difficile puisque en quelques heures, il y a eu énormément d'événements. La fermeture ou la possible fermeture, parce que ce n'est qu'un projet, certes, qui va être sans doute appliqué, mais la fermeture de la frontière entre la France et la Belgique pour éviter que les migrants ne se déplacent de Calais à un port belge. Donc il y a eu ça, plus la réunion des 10 pays de la zone balkanique en Autriche, réunion, conférence au sommet produite, animée par l'Autriche pour trouver une solution du contrôle du flux des migrants qui passent par la Grèce. Donc sommet considéré comme illégal et hors des cadres juridiques de l'Europe selon la Grèce. Donc il y avait énormément de choses à faire. Mais pour finir, un ami m'a proposé de traduire un texte, un entretien écrit dans le journal Die Zeit, un entretien mené par un journaliste du journal allemand avec l'historien, sociologue et anthropologue Emmanuel Todd. Alors l'entretien date du 7 janvier 2016. Je souligne avec un lourdement cette date, le 7 janvier 2016. Et dans cet article qui est intitulé Die Wirtschaft fault, die Gesellschaft fault, c'est-à-dire l'économie pourrie, la société pourrie. Alors, pas celle de l'Allemagne, évidemment, puisque très rapidement, l'introduction, dans les premières phrases de Emmanuel Toll, eh bien, celui-ci présente l'Allemagne comme un pays démocratique, extrêmement démocratique, et si j'ai bien compris, presque plus démocratique en tous les cas que la France. Et même si, il le dit en une phrase, l'Allemagne a encore un peu de progrès à faire. Continuons le combat. Et donc cet article est extrêmement intéressant puisque c'est un sociologue, anthropologue, historien, évidemment formé aussi à l'économie, qui eh bien, s'autorise à décrypter les structures fondamentales de la France, structures fondamentales, je dirais presque noyau nucléaire, enfin, le cœur nucléaire de la structure française, c'est-à-dire la structure familiale qui serait considérée comme une structure autoritaire, celle en tous les cas des régions périphériques autour de Paris, structure autoritaire qui ne sait pas accepter, eh bien évidemment, la différence, les immigrés, et cette France périphérique serait celle qui a amené au pouvoir François Hollande, sorte de président socialiste catholique zombie, c'est-à-dire ne pratiquant plus la foi catholique, mais doté d'une sorte de, encore doté des lignes de code du catholicisme. Et cette France donc périphérique serait à la fois catholique et elle mélangerait en fait, elle réussirait le tour de force à faire joindre à la fois comment dirais-je, les valeurs catholiques et les valeurs de l'extrême droite pour rejeter une partie de la population dite immigrée. Et en fait, derrière cela, c'est sa critique des manifestations qui ont eu lieu après le massacre de l'équipe de Charlie Hebdo en janvier 2015 et des personnes qui étaient autour du bâtiment. On se souvient qu'il a écrit très rapidement, 4 mois après, un ouvrage qui est Charlie et qui décrivait justement cette France, semble-t-il, d'abord animée par de bons sentiments, mais ces bons sentiments étaient en fait des sentiments des ressentiments et surtout des ressentiments de rejet par rapport à la religion musulmane et à la population musulmane. Donc, premier abord, selon lui, de bons sentiments, mais derrière cela, c'était une France périphérique catholique, socialiste et qui rejoignait les valeurs de l'extrême droite. Tout cela influencé, si je puis dire, mené par cette structure fondamentale d'une société autoritaire qui n'accepte pas la différence. Bon, l'article est extrêmement long. Ce qui est très intéressant, je dirais, à mes yeux encore plus que l'article lui-même, parce que c'est étonnant que un homme puisse décider de décrypter les motivations de tous ces individus qui étaient réunis et qui se sont réunis pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, et qui est capable d'y voir une seule et même tendance de fond dans ces manifestations. Ce qui est très intéressant, c'est que l'article n'est pas pro-allemand, mais en tous les cas, il est extrêmement critique vis-à-vis de la France et il se présente comme quelqu'un qui refuse maintenant de parler à la presse française, aux médias français et n'accorde sa parole, si je puis dire, qu'à d'autres médias et en particulier au journal Die Zeit. Or, j'ai trouvé sur Internet un autre article, figurez-vous, qui date... Eh bien, du 22 mai 2014.
2014.
Oui, exactement. Die Zeit, et qui est intitulé Eure Unfähigkeit zur Selbstkritik, notre incapacité à la critique, à l'autocritique. Et là, de nouveau, il est présenté, toujours donc dans Die Zeit, il est présenté par le journaliste comme un germanophobe et
disons que Vincent, pour être plus précis, disons que le journaliste le présente comme quelqu'un décrit comme germanophobe voilà. En France.
Il s'excuse presque le journaliste en lui disant excusez-moi, mais ça ne vous gêne pas si on vous présente comme un en tous les cas vous êtes jugé présenté en France comme un germanophobe et il répond, il fait une très très longue réponse en commençant que c'est un malentendu et il commence à décrire de nouveau ces fameuses structures familiales et il présente justement l'Allemagne ayant une structure familiale totalement différente de celle du bassin parisien qui est censée être, si je puis dire, la France qui domine et qui dirige et qui n'est pas capable, en fait, dans d'autres passages de l'article, il le dit très clairement, une France qui n'est absolument pas capable de rivaliser avec la puissance allemande et encore plus dans le cadre étroit, dans l'arène étroite de l'euro et de l'Union européenne. Selon lui, seuls les États-Unis ou la Russie sont capables de traiter d'égal à égal avec l'Allemagne. Alors, ce qui est encore, je renvoie à un autre article, vous vous en doutez, c'est celui qui est apparu, je crois, dans Marianne, c'était le dimanche 25 janvier 2015 à 5h10, Emmanuel Todd, l'Europe n'est plus le monde d'une démocratie libérale égalitaire. Marianne, vous ne vous êtes pas exprimée depuis la tuerie de Charlie Hebdo. Pourquoi ne vous a-t-on pas entendu sur ce sujet ? Emmanuel Todd, je refuse en France, en effet, tous les entretiens sur sa signification et ses conséquences. Enfin, là, à l'époque, en 2015, il acceptait quand même Marianne. Le niveau de saturation unanimiste des médias est tel qu'il rend l'analyse sociologique et critique inutile. J'attends le retour au calme pour éventuellement m'exprimer. Dans le contexte de cet entretien qui nous ramène la réalité des problèmes de la France, je suis quand même content de rappeler que taper sur l'islam ne résoudra pas le vrai problème des élites françaises, l'obéissance à l'Allemagne. Et en gros titre dans cet entretien, l'Allemagne est incapable de sortir de ses valeurs traditionnelles, autoritaires et inégalitaires. Donc, il présente l'Allemagne dans cet article du 25 janvier 2015 comme dotée d'une politique austéritaire qui assure la domination de l'Allemagne créditrice et la soumission des peuples périphériques débiteurs. J'ai une vision anthropologique de l'Allemagne où la famille État autoritaire et inégalitaire. Et je suis presque horrifié de voir ce pays incapable de sortir de ses valeurs traditionnelles autoritaires et inégalitaires. En tant que citoyen, j'aimerais vraiment me tromper. En tant que chercheur, je crois quand même que l'Allemagne est en train de vérifier mon modèle historique. S'il leur était à la plaisanterie, je dirais que l'Allemagne travaille à ma gloire. Donc voilà. Donc,
il dit tout et son contraire d'un article à l'autre.
Disons pour le dire, j'ai deux remarques à faire. Lorsqu'il est interrogé par un journal allemand, pour le dire simplement, il présente ses structures, sa théorie, pour lui, c'est même plus une théorie, c'est une théorie appliquée, sa théorie des structures familiales. Et il l'utilise pour critiquer vertement et très sévèrement le comportement de la nation française, de la société française. Et lorsqu'il est entre les deux articles extrêmes de 2014 et de 2015, lorsqu'il est en 2015, là, il était interrogé par un journal français. Et là, par contre, ses structures familiales, sa théorie des structures familiales, lui sert à critiquer vertement l'attitude rigoriste et rigide de l'Allemagne vis-à-vis de la Grèce. Car cet article dans Marianne du 25 janvier 2015, c'était à propos évidemment de l'attitude du gouvernement allemand vis-à-vis de la négociation des dettes du gouvernement grec. Voilà, alors deuxième remarque, à tout prendre, il faudrait peut-être demander à Emmanuel Todd de faire comme un plan de table lorsqu'on reçoit des invités, des convives, selon un certain protocole, c'est-à-dire lier des liens non pas en fonction de d'intérêts économiques ou de zones géographiques, par exemple les pays frontaliers, mais bien plutôt en fonction de la structure familiale. Peut-être faire rejoindre la France avec une partie de l'Espagne, car selon lui, la Catalogne a la même structure familiale que l'Allemagne, ou la faire rejoindre, par exemple, avec, la Slovénie ou l'Italie. Enfin voilà, c'est extrêmement intéressant parce qu'à force de lire ce genre d'article, on en vient à se demander, a-t-il une vision unifiée? Il a une théorie unifiée, mais à tout prendre, il est capable de voir à travers des milliers d'attitudes une seule et même tendance de fond, un seul moteur nucléaire dans chaque nation. Ça laisse pensoir, d'autant plus pensif, d'autant plus que je me suis... dernièrement, il y a eu une polémique, puisque un journaliste et écrivain algérien, mais qui s'exprime en français, Kamel Daoud, qui était journaliste dans Le Monde, a déclaré sa volonté de ne plus être journaliste, car il avait écrit un article sur les agressions... à connotation sexuelle qui avait lieu la nuit de la Saint-Sylvestre à Cologne, et il avait dans cet article directement et ouvertement donné l'origine de ce comportement agressif des jeunes hommes qui étaient les auteurs de ces agressions, certaines violentes, l'origine était dans la religion musulmane. Et cet article avait provoqué en retour un long article collectif d'historiens, d'anthropologues, de sociologues, aussi peut-être d'écrivains français, algériens, franco-algériens. Et je me suis dit, cet individu, Monsieur Daoud, dans quelle catégorie il va le mettre? Est-ce que c'est dans l'extrême droite? Est-ce que c'est dans les zones périphériques de la France issues du catholicisme le plus sectaire et le plus rigoriste, sous des couverts de bons sentiments, était islamophobe. Enfin, Monsieur Daoud, je ne pense pas qu'il soit issu de la France périphérique. Donc voilà, c'est vraiment assez intriguant de voir tant de savoir, tant de recherches pour provoquer autant de confusion, si je puis dire, de la part de Monsieur Todd. Voilà, à vous, Antoine.
Oui, alors, disons que c'est... Appelons Emmanuel Todd un personnage compliqué, j'irai au-delà, et au risque de ne pas me faire que des amis, j'irai au-delà, une preuve vivante et très immédiate et extrêmement concrète de l'importance d'un âge de départ à la retraite relativement jeune. Blague à part, Emmanuel Todd peut critiquer les conservatismes tantôt français, tantôt allemands, ce qui laisse, on va dire, peu de crédit à son propos, c'est de faire exactement les mêmes critiques d'un côté et de l'autre du Rhin, en fonction des aspirations politiques du moment et de la conjoncture. Ce qui laisserait donc penser qu'Emmanuel Todd est devenu plus une éolienne qui sait prendre le vent dans le bon sens qu'un véritable sociologue et démographe. Sur le fond de son analyse, à savoir les structures familiales. Elle n'est pas dénuée d'intérêt, loin de là. Son analyse anthropologique des choses possède des éléments extraordinairement intéressants pour essayer de comprendre l'organisation des sociétés à travers l'histoire. Mais elle ne saurait expliquer la suite de l'histoire et les situations que l'on observe aujourd'hui en Europe occidentale. Pour une première raison, c'est que tout d'abord, j'aimerais bien savoir... Quelle mouche peut avoir piqué Emmanuel Todd pour parler d'un modèle familial unique en région parisienne, quand on sait que c'est l'une des régions de France qui a le plus vécu l'immigration, et donc la société multiculturelle, et on ne peut pas dire que le noyau nucléaire familial des foyers issus de l'immigration, et notamment puisqu'on parle de gens qui sont devenus adultes, donc issus de l'immigration dans les années 60, soit parfaitement comparable au noyau nucléaire familial d'une famille française catholique traditionnelle de nos gens le retrou. Donc il fait une unicité, qui est un raccourci intellectuel confortable, mais qui sur le fond est attaquable puisqu'on ne peut pas parler d'un modèle familial unique en France, notamment en région parisienne, avec les évolutions de la sociologie et les vagues successives d'immigration. Ça, c'est une première chose. Et surtout, a fortiori, de l'immigration qui ne partage pas la même culture que celle de l'Europe occidentale. Et donc, une religion différente, des coutumes et des traditions différentes. Sur le fond, Emmanuel Todd était extrêmement respecté, et l'est toujours, sur une analyse démographique et anthropologique de la situation. Notamment pour son livre « La chute finale » en 1975, si ma mémoire est bonne, où il prédit, ce qui arrivera 25 ans après, la chute de l'Empire soviétique à travers un seul indice démographique qui était le taux de mortalité infantile. Faut-il rappeler que cet indice, ce qui relevait d'une prouesse, trouver la chute à l'époque, prédire la chute de l'Union soviétique, à plus ou moins long terme, relevait quand même, disons, d'un très bon coup de pif. Mais l'indice qu'il a utilisé est démographique et pas anthropologique comme le sont les structures familiales. Donc il ne se base pas sur des données chiffrées et irréfutables que sont les données démographiques, et Emmanuel Todd était le premier à expliquer dans Radioscopie, Vincent vous connaissez, vous voyez très bien de quoi je veux parler, Emmanuel Todd était le premier à expliquer dans Radioscopie l'intérêt des indicateurs démographiques qui sont que tout ce qu'on a à l'entrée à un moment doit sortir de l'autre, puisque chacun naît un jour et meurt un autre jour, et donc que l'erreur est impossible en démographie, contrairement à la statistique économique à qui l'on peut faire dire à peu près tout et n'importe quoi. Et il était tout à fait juste là-dessus. Mais là encore, ce sont des indicateurs démographiques qui sont parfaitement justes et parfaitement cohérents, et ce ne sont pas des interprétations anthropologiques des sociétés contemporaines. Donc, l'analyse d'Emmanuel Todd est extraordinairement... attaquable sur ce point-là, et au-delà de ça, il fait fi, et c'est amusant à quel point, sur l'ensemble des sujets d'analyse d'aujourd'hui, la politique, l'économie, et donc on le voit, l'anthropologie, la sociologie, on se comporte et on analyse des situations données comme si nous en étions arrivés à un point où l'évolution de la société s'était arrêtée, l'évolution des pensées s'était arrêtée et l'évolution des comportements s'était arrêtée. Jamais dans l'histoire, justement, une société n'est restée ancrée dans le traditionnalisme. Elle a, elle peut être plus ou moins conservatrice, naturellement, mais jamais une société s'en est arrêtée définitivement à un moment donné de l'histoire, en restant telle une photographie, un daguerréotype de ce qu'elle a été à un instant T. Ça n'existe pas. Et donc dire ce que fait Emmanuel Todd. Les structures anthropologiques sont ce qu'elles sont en France, avec une famille autoritaire, donc on a affaire à une société autoritaire. Et ridicule parce que le noyau familial en France, d'une, il évolue, premièrement, et il continue d'évoluer. Penser que le noyau familial n'évolue pas ou que les structures familiales n'évoluent pas, je ne sais pas comment il définit ces structures familiales. Enfin, il faut tout de même rappeler que depuis 50 ans, les familles ont bien changé. Nous sommes passés d'une famille où, disons-le crûment, la mère restait à la maison pour s'occuper des gamins, à une famille où les deux parents travaillent. Et donc il y a petit à petit une égalisation de la position dans le couple et dans la famille. Donc les familles changent, Emmanuel Todd faisant fi de ce changement intrinsèque des sociétés, faisant fi de l'évolution des pensées et des consciences, qui se reflètent sur des plans sociétaux. La construction européenne en est le meilleur exemple. Nous sommes passés, alors certes nous avons l'impression sur le court terme de revenir en arrière, mais si l'on regarde sur une échelle de long terme, nous sommes passés de sociétés très nationalisées, avec des frontières nationales extraordinairement importantes, au-delà de ça, de pays qui se faisaient la guerre il y a encore 70 ans, nous en sommes passés à l'Union européenne qui est la plus grande construction politique qui existe à ce jour, et la plus grande ambition politique qui existe à ce jour, et l'on a aboli les frontières réellement au sein de l'espace Schengen, même si effectivement depuis un an, des velléités, des volontés de retour à l'ancien temps apparaissent. Donc Emmanuel Todd, faisant fi de l'ensemble de ces changements, s'enterre dans une analyse fixe de la situation. Pour quelqu'un qui a justement prédit l'effondrement de l'URSS parce qu'il y avait précisément un changement de société, on pourra quand même trouver ça, je dirais, dommage. En tout cas, ce sera mon point de vue pour quelqu'un qui a émis par le passé de très grandes idées et aujourd'hui finalement se contente à s'enterrer dans une forme de simplicité intellectuelle qui lui fait, soyons réalistes, de mon point de vue, avec tout le respect que j'ai pour ce monsieur, qui lui fait raconter n'importe quoi. Voilà Vincent, je ne sais pas si vous souhaitez répondre ou réagir.
Non pas répondre, mais réagir, oui, par une remarque à tout prendre. J'ai l'impression que Emmanuel Todd est un homme extrêmement intelligent qui a littéralement construit à bout de bras, pendant des années d'études et de réflexions, une théorie extrêmement sophistiquée et complexe. Elle est minée, cette théorie, par la tentation de l'essentialisme fixé. Ce sont deux essences, ce sont des essences, des structures, parce qu'il y en a à peu près 4 ou 5 de structures qui gèrent le groupe familial, et ces structures ne bougent pas, et ce sont elles qui sont hors du temps et qui sont inatteignables par l'usure ou les métamorphoses de l'histoire. Et cette théorie qui mérite, moi j'en suis profondément convaincu, qui mérite d'être étudiée, l'amène d'une certaine manière à avoir l'échec de l'Union européenne, puisque chaque fois dans ses articles, dans ses entretiens, c'est toujours quand même un autre point qui est étonnant, c'est le fait que ça ne va jamais, selon lui, l'Europe ne va pas. Ce qui est le cas d'ailleurs. Mais ce n'est pas le cas des hommes, des individus, ce n'est pas le cas de... c'est pas dû à des égocentrismes, à des peurs, à des angoisses, ce sont dus à ces structures qui, comme elles sont inatteignables par les métamorphoses de l'histoire, eh bien, cela provoque... en retour, une autre vision, mais c'est une vision pessimiste, fixiste, je dirais presque, pessimiste et qui ne peut absolument pas être modifiée. L'Europe ne fonctionne pas à cause de ses structures familiales, et comme elles ne peuvent pas être modifiées, l'Europe ne fonctionnera jamais. Alors qu'il lui-même se réclame d'être un Européen et surtout un gardien vigilant des démocraties. En fait, ça crée une vision pessimiste et désespérante. Tout ça, si je puis dire, tout ça pour ça, après tant d'années d'études.
Oui, alors en plus, Vincent, vous rappelez son parcours européen, il faut, pour souligner l'ambiguïté du personnage, Emmanuel Todd est quand même quelqu'un qui a appelé à voter contre le traité de Maastricht en 92 et pour le référendum sur la Constitution européenne de 2005. Preuve, s'il en fallait, que la cohérence n'est pas sa plus grande qualité. Du reste, Emmanuel Todd est quelqu'un qui, par exemple, prône effectivement le retour à la structure nationale comme échelle politique. C'est, disons, une drôle d'analyse pour un homme qui avait très très bien analysé la nécessité de protectionnisme européen et donc d'intégration des économies européennes, et qui aujourd'hui fait machine arrière. C'est un homme du passé, Emmanuel Todd. Réellement, il le montre sur la question européenne. Penser que parce que les structures familiales seraient inaltérables avec le temps, ce dont je pense que c'est réellement faux par ailleurs, même si je n'ai pas le bagage intellectuel d'Emmanuel Todd pour le prouver, mais je crois que l'histoire montre que Emmanuel Todd se trompe sur cette question-là. Les structures familiales évoluent naturellement, et par ailleurs, prendre ça comme l'excuse du retour à la nation est une réalité, disons, relativement stupide. D'une, parce que la nation n'est pas la structure fixe et intemporelle et permanente qu'il ne fait croire. Les nations changent, elles changent de territoire. La nation française, disons qu'elle remonte au prou au 18e siècle, l'apparition du sentiment national qui s'est exacerbé au moment de la révolution de 1789, mais disons qu'il remonte, allez, si nous sommes gentils, si l'on élargit un petit peu les critères, remonterait-il au 17e siècle jusqu'à aujourd'hui? La nation française a bien changé, elle a changé de territoire, elle a changé de coutumes, elle a changé de régime politique, elle a changé d'économie, etc., etc. A fortiori,
elle a changé de religion même.
Elle a même changé de religion. A fortiori, je suis même convaincu qu'elle a changé ses structures familiales. Mais là, je n'aurai pas les armes pour le prouver, donc je laisse le soin à qui de droit de se faire une idée. Donc penser que la nation serait l'échelle idéale parce qu'elle est intemporelle et qu'elle va de pair avec la structure familiale est une absurdité. Allez dire ça à l'Alsace-Lorraine, bon sang de bonsoir. Dans l'histoire, ils ont été autant allemands que français. Ont-ils une structure familiale anthropologique allemande ou française ? Et si cette structure anthropologique est allemande, je vous pose la question, qu'est-ce que l'Allemagne comme État-nation, sachant que l'Allemagne existe réellement depuis 1870, c'est-à-dire à l'échelle de l'histoire, avant-hier ? Non, ce raisonnement ne tient pas debout. La réalité concrète des choses, la lecture de l'histoire sur une échelle qui est au-delà de 30 ans, c'est-à-dire pas demain et hier, mais une échelle qui est à la mesure de l'évolution des structures politiques, c'est-à-dire au moins 5 siècles en avant, l'Union européenne et l'intégration européenne sera une réalité, comme la disparition des États-nations, pour une seule et bonne raison. Il n'y a rien dans l'histoire qui soit figé. Emmanuel Todd n'arrive décidément pas à s'intégrer ça dans la tête. La nation est un concept jeune, c'est un concept qui est amené à disparaître, comme les structures politiques qui l'a précédé ont disparu, comme le modèle féodal a disparu, l'échelle de l'État-nation et la division du monde par nationalité, et le sentiment national comme sentiment de cohésion sociale, de solidarité humaine, finira également par disparaître, parce que l'humanité et les peuples évoluent, et ils évoluent vers plus d'intégration précisément, et vers plus de solidarité. Ça prend du temps, c'est très lent. À l'échelle d'une vie humaine, c'est encore plus lent, mais à l'échelle de l'histoire, on ne peut pas le remettre en question, et les structures familiales n'y changent visiblement rien. Voilà, je vous laisse la parole, Vincent.
Non,
non, vous la refusez.
Très... Je la refuse car c'était une très belle conclusion, je ne veux pas la gâcher.
Eh bien, si c'est comme ça, je vous propose de passer à la deuxième partie de ces feuillets de l'Europe. Alors Vincent, une fois n'est pas coutume, nous allons partir en Italie, ce qui doit vous faire plaisir. Ça va, le cœur va bien, Vincent? Vous êtes toujours avec nous?
Attendez, il faut que je boive un peu, parce que...
Votre goutte, Vincent, votre goutte. En Italie, et nous allons parler plus précisément du président du Conseil des ministres italien, Matteo Renzi. C'est un article à lire dans Le Monde édition abonnée ou sur leur site internet, toujours édition abonnée, lemonde.fr, un article intitulé « L'Italie veut changer l'Europe pour la sauver ». Je vais faire, comme l'heure tourne, un très rapide, mais alors très 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 rapide, chemin au-dessus des lignes de cet article. L'idée étant que Matteo Renzi fait une critique et demande la refonte des institutions communautaires en Europe. Il déclare, particulièrement en matière économique, il déclare, je cite, « Soit l'Europe change de politique économique, d'approche sur l'immigration, de conception de l'idée même de communauté, soit elle prend le risque de réduire à néant la plus grande construction politique jamais réalisée. » Voilà ce qu'il déclare lundi à Rome devant la presse étrangère. Avant d'ajouter, l'Italie travaille pour reconstruire un idéal européen. D'autres phrases qui, moi, me flattent, hein, je dois le dire, j'aime beaucoup Matteo Renzi, mais alors maintenant, je l'adore, pour sa vision européenne des choses. L'Europe ne doit plus être le problème, mais la solution. Et naturellement, c'est une remarque concernant l'excès d'austérité utilisé pendant la crise des... dette publique. Je vous invite vraiment donc à retrouver cet article faisant que Matteo Renzi se bat des quatre fers pour devenir le leader, entre guillemets, le leader non officiel de l'Europe, comme l'est actuellement Angela Merkel. Matteo Renzi, qui est un véritable Européen, on peut le dire, et là, qui se positionne politiquement de manière extraordinairement intéressante, c'est-à-dire... Tout d'abord, il calme un petit peu le jeu de son opposition, entre guillemets, ancienne, avec Jean-Claude Juncker, le président de la Commission. Et donc, il se pose en véritable europhile, homme politique europhile, mais néanmoins très critique vis-à-vis des institutions, tout en promouvant plus d'intégration européenne, notamment sur l'union bancaire. Matteo Renzi est quelqu'un qui veut de l'intégration européenne politique et économique, et donc je vous invite à lire tout cela plus en détail sur le site du Monde. Je ne sais pas, Vincent, si vous avez des remarques à faire sur cet article.
Non, pas de remarques, puisque je n'ai pas pris connaissance de cet article, d'autant plus que je ne suis pas abonné au Monde, et donc en ligne en tous les cas, et donc je ne peux pas faire de remarques, si ce n'est que c'est sans doute... La première fois depuis bien longtemps que j'entends une proposition pour sauver l'Europe, la consolider et même la présenter comme une solution. Parce que jusqu'à présent, j'ai l'impression que c'est un pauvre pantin qui est roué de coups par les États membres justement de l'Union européenne et dépecé par ces mêmes membres de l'Union européenne.
Alors, dépeçage toujours, mais vous verrez, c'est assez compliqué à suivre. Un article à lire dans EU Observer, un billet d'opinion. Pourquoi l'Europe doit se battre contre Nord Stream 2? Alors, Nord Stream 2, c'est un pipeline qui doit rallier la Russie et l'Allemagne pour l'alimentation en gaz. Et cet article de s'interroger sur le pourquoi de ce pipeline alors que la Commission européenne a rendu ses conclusions déjà sur un rapport de l'approvisionnement énergétique de l'Europe et un point sur les accords bilatéraux énergétiques. Tout ça évidemment dans le but de construire l'union énergétique en Europe. Et pour l'auteur de cet article, le premier ennemi de l'union énergétique en Europe, c'est Nord Stream 2. Pourquoi ? Alors que nous sommes dans une conjoncture sur le plan énergétique particulière, un pays fait le choix de construire un pipeline, alors que le consortium chargé de la construction de ce pipeline est dirigé ni plus ni moins que par Gazprom, la fameuse société d'exploitation de gaz détenu par l'État russe, avec un, tout de même un coût estimé à 10 milliards d'euros, quand seulement la moitié des capacités actuelles de transit en gaz entre la Russie et l'Union européenne sont inutilisées. On parle donc de la construction d'un nouveau pipeline entre la Russie et l'Europe, alors qu'on utilise actuellement la moitié seulement des capacités des pipelines déjà existants. Alors, naturellement, pour l'Allemagne, il s'agit de dire « c'est le business, on construit des investissements, il n'y a rien de politique là-dedans, ce pipeline n'a rien de politique, c'est simplement une question économique et de sécurité énergétique. » D'une, le risque, l'article rappelle que, quel que soit ce que raconte l'Allemagne, et on verra si les lois européennes s'appliquent sur ce projet, puisque vous le savez, la Russie subit des sanctions économiques de l'Union européenne, ce pipeline pourrait donc rentrer en ligne de compte. L'article rappelle que le risque que Nord Stream 2 confine l'union énergétique à la poubelle est bien trop important pour laisser ce projet se dérouler. Quand je parle d'union énergétique, je parle bien sûr d'union énergétique au sein de l'Union européenne. Et ensuite, s'il s'agissait simplement de business et de politique, la demande en gaz en Europe a été de plus en plus faible et elle rentre en compétition aujourd'hui avec le renouvelable et le charbon. Bon, c'est en plus une conjoncture où le coût du pétrole est extraordinairement bas. L'article donc de dire que l'excuse du business n'a rien de convaincant et que le réel enjeu est géopolitique et notamment pour la Russie puisque le projet vise à contourner l'Ukraine qui actuellement, donc, d'où actuellement passent les pipelines existants entre la Russie et l'UE. L'idée est donc de construire un pipeline qui ne passe plus par l'Ukraine pour empêcher l'Ukraine d'avoir le moindre contrôle et la moindre source de pression sur son voisin russe. Je vous invite donc à retrouver cet article qui montre exactement quels peuvent être les enjeux d'un simple pipeline entre la Russie et l'Europe, quels sont les enjeux, les tenants et les aboutissants géopolitiques qui se trouvent derrière, et dans quel cas l'Allemagne peut jouer un double jeu, puisqu'effectivement l'Allemagne avait déjà été mise à l'index, d'ailleurs si je ne me trompe pas précisément par l'Italie, par Matteo Renzi, mais je peux me tromper là-dessus, et mise à l'index pour avoir d'un côté un double discours, d'un côté de condamnation de la Russie sur ses agissements vis-à-vis de l'Ukraine et notamment vis-à-vis de la Crimée, et de l'autre côté s'arranger avec la Russie pour la construction de ce pipeline. Je vous invite donc à retrouver cet article en ligne. Vincent, je ne sais pas si vous souhaitiez réagir.
À part le simple fait que ça montre de nouveau, si je puis dire, qu'il y a toujours, des tendances qui appellent à la contradiction et à l'éclatement interne, puisque des membres, l'Allemagne qui est présentée et qui se présente comme un membre rigoureux de la logique de la communauté européenne, donne aussi, avec ce genre de projet politico-économique, met en danger justement l'intégrité européenne et aussi la logique, une des logiques, celle énergétique de l'Europe. Mais je suppose que c'est par rapport aussi, elle est motivée aussi par une recherche de sources énergétiques, puisqu'elle a abandonné complètement l'énergie nucléaire, qu'elle veut peut-être aussi abandonner l'énergie fossile, du charbon, au profit peut-être d'une autre énergie fossile, celle du gaz.
Eh bien, on verra tout cela dans l'avenir, Vincent, mais pour l'heure, je vous propose de passer à vos éphémérides culturelles. À 18h48, je pense que c'est une bonne heure. À vous l'antenne, cher Vincent.
Merci Antoine. Bonsoir donc, chers auditeurs. Cette fois-ci, nous allons parler de choses plus légères. Et je n'ai que trois mots à dire. London, London and London. En fait, ce sont des expositions qui ont lieu à Londres. Donc la première que je tiens à citer, c'est Painting the Modern Garden, Monet to Matisse, donc peindre le jardin moderne de Monet à Matisse. Il ne faudrait pas croire que c'est une exposition, une énième exposition sur la peinture française entre le 19e et le début du 20e siècle. En fait, c'est une exposition qui comprend notamment des peintres français, Monet et Matisse, mais aussi le Sidaner, par exemple, avec le pavillon rose de 1936, Henri Le Sidaner. Mais en fait, il s'agit de réellement d'une exposition thématique sur eh bien, le thème du jardin en tant qu'espace clos, espace mobile, qui a subi des métamorphoses. Car la peinture de jardin eh bien, a une histoire dans la peinture européenne du 19e siècle jusqu'au 20e siècle, et c'est dû aussi à une histoire parallèle, celle eh bien, de l'évolution du jardin. Par exemple, l'exposition parle du fait que l'on a pu acquérir énormément de graines de fleurs exotiques, notamment le dahlia, venant du Mexique. Donc c'est une exposition qui raconte aussi, qui démontre que la peinture de jardin, eh bien, dépend d'une autre histoire, celle de ces mini paysages. Et il y a aussi un autre aspect dans cette exposition, c'est il y a de nombreux documents photographiques qui montrent justement les peintres, que ce soit Vassili Kandinsky ou Monet, par rapport à leur relation avec le jardin, ou avec le jardin, en fait, le jardin comme espace clos où se repose où travaille le peintre. Alors, il travaille même quelquefois la terre avant de travailler la surface vierge de son tableau. Donc, c'est une très belle exposition qui a lieu donc à la Royal Academy of Art, qui dure jusqu'en le 20 avril 2016. Alors, une autre exposition, toujours à Londres, encore plus, si je puis dire, bien plus superficielle, mais qui peut être utilisée pour ses données historiques qu'elle laisse deviner. C'est Vogue 100, A Century of Steel. Donc, c'est une exposition sur les 100 ans du journal Vogue, British Vogue. Il faut savoir qu'il a été créé en 1916, durant la Première Guerre mondiale, quand le transport de revues, de magazines américains devenait impossible avec les blocus créés par les U-boats allemands de la Première Guerre mondiale, empêchaient toute communication. Ce journal a été créé et c'est une exposition qui se donne aussi pour tâche de montrer à travers ses photographies ou ses articles de grands personnages tels que Aldous Huxley, puisque Aldous Huxley a écrit des articles dans le British Vogue. Donc c'est une exposition qui ne se contente pas de montrer la mode, mais de retracer, si je puis dire, l'origine de cette notion de glamour et de glossy dans cette revue, et qui est le reflet en fait d'une histoire mouvementée, c'est-à-dire celle du monde occidental. Donc une très belle exposition qui a lieu à la National Portrait Gallery, Leicester Square, jusqu'au 22 mai 2016. Et pour finir, une exposition, je ne pense pas que les amateurs d'art en France en aient pris connaissance, alors que c'est une exposition qui me semble intéressante, rien que la photographie donne envie de voir l'exposition, c'est Sol Leiter, une rétrospective. En fait, Saul Leiter, c'est un photographe connu par les photographes et qui a été extrêmement célèbre dans les années 40, 50 et 60 et durant trois décennies au minimum. Et il faut savoir que ce Saul Leiter a d'abord été un peintre, si je puis dire, un peintre volontariste et besogneux qui cherchait à travailler dans le style presque étouffant de l'expressionnisme abstrait des années 40 et 50 aux États-Unis, et comment cet artiste, au fond, s'est réalisé avant tout dans le travail photographique, sans abandonner curieusement de peintre au sens graphique, mais son regard de peintre pour les gammes de couleurs, car ses photographies sont époustouflantes de beauté, justement pour la photographie, pour les couleurs. Il faut savoir que c'est en voyant une exposition en 47 de Henri Cartier-Bresson que Saul Leiter est passé définitivement à la photographie. Donc c'est une très très belle exposition qui a lieu donc à la Photographers Gallery à Soho jusque le 3 avril 2016, et à tout prendre entre une exposition sur Vogue et l'exposition de Saul Leiter. Peut-être Saul Leiter est plus humble, mais elle mérite autant d'attention que les autres. Voilà. Ah oui, une dernière chose, l'exposition Paintings the Modern Garden donne l'accès aux visiteurs britanniques et européens de pouvoir faire l'expérience de l'immersion dans les panneaux peints entre 1916 et 1926 par Monet, ces panneaux des nymphéas qui sont réunis pour l'occasion, qui sont présentés pour l'occasion et qui permettent justement de faire l'expérience du all-over de cette immersion dans un espace pictural. Donc voilà, trois belles expositions, il y en a beaucoup d'autres malheureusement que je ne peux pas citer, par exemple Delacroix et la montée et la naissance, les Anglais disent « the rise of modern art », Delacroix et la montée de l'art moderne, une autre exposition, je dirais presque une bizarrerie, puisque Delacroix est un artiste purement français, certes anglophile, mais en tous les cas très peu présent dans les collections britanniques. Voilà, à vous, cher Antoine.
Merci Vincent, et vos éphémérides, la fin même de vos éphémérides, marque comme à l'accoutumée la fin de cette émission, à 18h57, c'est un petit peu normal aussi. Comme d'habitude, vous pourrez naturellement retrouver cette émission sur notre site internet, en écoute à la demande, en balado-diffusion pour faire plaisir à l'Académie française, ou pour reprendre le terme du commun des mortels, tout simplement en podcast. D'ici là, vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on se dit à la semaine prochaine, même heure, même endroit, et avec vous, Vincent Tell, merci d'avoir été avec nous ce soir, et une très bonne soirée.
Bonsoir.